La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. On l'appelle la phobie scolaire, angoisse qui fait partie des troubles et des paniques qui surviennent à la simple idée d'aller à l'école. Entre 1 et 5% des jeunes en âge scolaire seraient concernés et cette pathologie serait en constante augmentation dans un contexte d'esprit de compétition de plus en plus présent dans nos sociétés. Alors qu'est-ce que la phobie scolaire? Qu'est-ce qui la distingue des autres difficultés ou troubles psychologiques? Et quelles sont ses différentes manifestations? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans un instant avec mes invités. J'attends bien sûr dès maintenant vos messages et vos témoignages. Vous pouvez nous écrire en direct sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
Une drôle d'histoire de bactéries dans le cerveau aujourd'hui à la une.
Et oui Mathieu, c'est peut-être l'endroit du corps où on les attendait le moins, mais il est fort probable que nous possédions un microbiote cérébral.
Alors bon.
Une photo troublante aujourd'hui à la une dans un instant.
Eh bien on va décrire cette photo dans un instant et c'est Fanny Boyon aujourd'hui qui réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré. Les mercredis psy et philo avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, la phobie scolaire, donc on va en parler dans un instant. Je salue mes invités avec moi en studio, Lélia Benoît qui est pédopsychiatre. Bonjour.
Bonjour.
Sébastien Bollard du magazine Cerveau et Psycho. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et puis on va ouvrir votre micro et en duplex de Bordeaux, Grégory Michel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychopathologie. Lélia Benoît, vous avez lancé une enquête participative sur la phobie scolaire, qui est la plus grosse étude menée sur le sujet. L'idée, c'est d'évaluer justement cette manifestation de
Tout
panique
à fait.
Et d'angoisse.
De faire un état des lieux en France en faisant participer à la fois les associations de parents et l'éducation nationale.
Ouais, vous avez eu déjà beaucoup de retours de la part des enseignants?
Oui, plus de 1500 réponses de la part des parents concernés et plusieurs enseignants ont diffusé dans leur classe le questionnaire.
Donc c'est une enquête en cours. Hein.
On
va en parler avec vous dans un instant. Grégory Michel, la phobie scolaire, alors ça n'est pas un effet de mode. Il semblerait que les enseignants, comme les professionnels de santé, l'observent de plus en plus. C'est le cas?
Alors, il semble effectivement qu'il y a des facteurs, et peut-être que ma collègue, là, justement, qui est sur le plateau avec vous, pourra nous apporter des éléments, là, concernant les aspects un peu sociétaux, parce que c'est vrai que la pression, on va dire, vis-à-vis, effectivement, de la performance scolaire semble, en tout cas, un élément qui peut participer à l'augmentation d'une pathologie comme ça qui effectivement, est assez inquiétante, à la fois pour les parents, pour les enseignants et bien sûr pour les jeunes.
Sébastien, comme vous le signalez justement à la une de Cerveau Psycho, les signes d'anxiété sont à repérer le plus tôt possible dans le cadre de la phobie scolaire. Hein.
Oui, c'est déjà le refus hein, d'aller à l'école. Et puis effectivement, il y a des symptômes qui peuvent carrément toucher le fonctionnement du corps. Hein. On va parler des nausées, des vomissements, puis ça peut aller jusqu'à des troubles paniques. Mais il y a des signes plus subtils qu'effectivement sur lesquels on peut pas forcément avoir l'idée quand on est parent. Et peut-être que ce sera pas mal d'en parler.
Eh bien, on fera dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré. Axel Villard à la une aujourd'hui. Ce microbiote cérébral, c'est
oui,
une découverte.
Mathieu. Mais oui, il se pourrait bien que des bactéries vivent en nous jusque dans notre cerveau. En tout cas, depuis quelques années, les preuves s'accumulent et les dernières en date nous viennent des États-Unis où lors d'un congrès en neurosciences à San Diego, des images de bactéries bien en chair à l'intérieur d'un cerveau humain ont été présentées et relayées par la revue Science. Rien de publié encore, mais l'occasion d'en discuter avec vous, Benjamin Lelouvier, depuis les studios France Bleu à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences, directeur scientifique de la société Vaillomer qui est rattachée à l'INSERM et spécialisée dans la détection bactérienne à l'intérieur des tissus. Alors, l'idée que des bactéries pouvaient vivre en nous, on commence à s'y faire, mais dans le cerveau, quand a-t-on réellement commencé à le penser ?
Alors ça c'est très intéressant, donc faut reprendre le contexte du microbiome qui est un sujet qui est vraiment à la mode depuis 10-15 ans grâce à des avancées technologiques importantes. On en parle souvent dans vos émissions, on se rend compte que toutes les bactéries qui sont dans l'intestin ont un rôle beaucoup plus important qu'uniquement un rôle digestif et un rôle dans beaucoup de fonctions du corps, y compris avec un rôle en distance. Donc, il y a quelques années, un certain nombre de chercheurs, dont Rémi Bourcelin et Jacques Amard à l'INSERM à Toulouse, on se sont dit, mais si ça se trouve, ces bactéries ne sont pas que dans l'intestin, ils se trouvent également dans d'autres tissus. Ils ont commencé à étudier le rôle des bactéries dans le tissu adipeux, dans le sang, dans le foie, en rapport avec le diabète et l'obésité. Et ils ont été amenés à créer la société Viomer, dont je suis directeur scientifique. Et on a mis au point des techniques très spécifiques, parce que c'est très compliqué d'utiliser ces bactéries dans les tissus. Et on a à Viomer, donc, une capacité à regarder l'ADN bactérien, c'est-à-dire on ne regarde pas les bactéries directement, mais des produits bactériens qui peuvent correspondre ou pas à des bactéries vivantes. Et un des endroits où on regarde, c'est dans le cerveau. Dès 2015, on avait publié le microbiote cérébral sous forme d'ADN bactérien chez la souris. Et depuis, on peut en reparler, on étudie également le rôle de ces bactéries dans le cerveau et dans le sang, dans les différentes maladies, dont les maladies d'Alzheimer.
Alors nous, on est en train d'annoncer quelque chose qu'on présente comme un scoop, mais vous nous dites, pour nous, c'est pas une surprise, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, c'est ça en fait?
Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, on n'est pas les seuls, il y a plusieurs gens dans le monde qui étudient les bactéries. C'est ce qui est plus nouveau, c'est de dire que des gens sains, c'est-à-dire qui ne sont pas malades, ont des bactéries dans le cerveau. Les bactéries dans le cerveau, que ce soit chez les patients qui sont atteints du sida, des patients qui ont des problèmes neurodégénératifs, des patients évidemment qui ont des infections, à la limite, ça fait assez longtemps qu'on l'étudie, à la fois parce que c'est assez logique d'y penser, et à la fois parce que c'est des cas où la technique classique permet d'étudier ce type de microbiote dans le cerveau. Ce qui est nouveau et qui est d'ailleurs plus ou moins accepté par la communauté scientifique selon le passif de la personne à qui on... à laquelle on parle, c'est l'idée que même chez un individu sain, chez nous, chez tous nos auditeurs, on a un certain nombre de bactéries vivantes dans le cerveau qui ont un rôle peut-être pour la santé, qui ont un rôle pour la pathologie. Quand on parle en congrès et qu'on montre nos résultats où on voit de l'ADN bactérien dans le cerveau, donc qui peut correspondre à l'ADN à des bactéries vivantes, si on parle des neuroscientifiques, il y a une certaine résistance parce que on a, je suis moi-même neuroscientifique de formation, donc j'ai partagé cette résistance. On a un DOM qui est la barrière hématoencéphalique, qui est une espèce de frontière infranchissable autour du cerveau, et de dire que des bactéries passent à travers cette barrière, c'est presque péjoratif, j'ai envie de dire.
Ouais, Sébastien Boller.
Aujourd'hui, on sait que ces bactéries se retrouvent dans les cellules immunitaires, sont capables de transvaser cette barrière, et il y a de plus en plus de preuves, donc nous sous forme d'ADN bactérien, le poster dont vous parlez, les études à San Diego montrent à la fois par microscopie chez l'homme et chez la souris des bactéries vivantes dans des individus a priori sains, même si chez l'homme c'est post-mortem, donc on peut se poser la question. Donc il n'y a plus trop de doutes sur le fait qu'il y ait des bactéries dans le cerveau. La question est, est-ce que c'est totalement marginal ou est-ce qu'il y a vraiment un microbiote riche et quantitatif qui a un rôle dans la vie de tous les jours et qui peut être impliqué dans de nombreuses maladies.
Sébastien Boller, vous qui êtes rédacteur en chef de Cerveau Psycho, est-ce que vous le saviez que nous avions des bactéries justement dans le cerveau? C'est une découverte aussi pour vous aujourd'hui.
Je me félicite de venir à la tête au carré.
On apprend des trucs sur le cerveau.
Mais c'est très étonnant parce qu'on sait que le microbiote intestinal a un rôle probablement sur des phénomènes cognitifs liés à l'humeur, parce qu'il y a une rétroaction de l'intestin vers le cerveau. Et là, je sais pas, je m'adresse à vous.
Benjamin Lelouvier.
Voilà. Est-ce que, à votre avis, ce microbiote cérébral pourrait aussi moduler un certain nombre de fonctions cognitives, l'humeur, des comportements? Est-ce qu'il y a déjà des axes de recherche qui sont lancés de ce côté-là?
On vous laisse répondre.
Tout à fait. Et nous-mêmes, notamment avec Sylvie Claessen, qui est chercheur à l'INSERM de Montpellier, on étudie le rôle de ces microbiotes dans le cerveau et dans le sang, dans les maladies d'Alzheimer. On a des travaux chez la souris qui sont en cours de publication, qui vont d'ailleurs être présentés à l'événement Back to Back, qui est un congrès qu'on organise avec de nombreuses sociétés, l'INSERM, l'INRA, le CNRS, le pôle de cancer biosanté. On va organiser un congrès le 11 et le 12 de décembre à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, où on va parler du microbiote, de l'antibiorésistance, et on va une première mondiale, et Sylvie Claessen va présenter nos résultats qu'elle a fait avec nous sur le rôle du microbiote dans des modèles d'Alzheimer chez la souris. On montre comment ce microbiote est changé, donc nous on regarde l'ADN, mais on montre comment on peut moduler le microbiote avec à la fois des antibiotiques et des probiotiques, donc des molécules qui activent les bactéries, et comment ça réduit les symptômes de la maladie d'Alzheimer chez la souris. Et on est en train de préparer des cohortes humaines pour vérifier aussi le rôle du microbiote dans les maladies d'Alzheimer.
Alors, très court, Benjamin Lelouvier, pour le moment, ce sont des faisceaux de preuves qu'on a. Qu'est-ce qui nous empêche encore aujourd'hui d'affirmer qu'elles vivent bien en nous, sous notre crâne, ces bactéries?
Bah, en fait, pour cela, il faudrait qu'un de vous me donne un cerveau vivant. En fait, le vrai problème, c'est que nous, on a vu... Alors, il y a un problème technique qui est... C'est pas si facile que ça de regarder les bactéries vivantes. Nous, on regarde une preuve indirecte qui est l'ADN bactérien, qui peut correspondre à des bactéries vivantes au moment où on les observe, ou à des résultats de bactéries qui étaient soit vivantes dans le cerveau avant, soit qui viennent de l'extérieur. Donc, le premier problème, il est technique. C'est pas si facile que ça de voir la bactérie vivante. Le deuxième, c'est comme je le disais, il faudrait des cerveaux vivants. Évidemment, ça, on peut le faire, oui, chez la souris. Mais ce qui est montré donc à San Diego est très clair. C'est-à-dire qu'ils prennent des souris avec des souris sans bactéries qu'on appelle des souris axéniques. Dans un cas, ils voient des bactéries par microscopie dans le cerveau. Dans l'autre, ils ne le voient pas. Donc, chez la souris, il n'y a plus aucun de doute de dire qu'il y a des bactéries vivantes dans le cerveau, et il n'y a pas raison de penser que les souris auraient des bactéries vivantes dans le cerveau et pas l'homme.
On attend
maintenant,
juste la publication,
encore une fois,
par
savoir
contre.
Est-ce que c'est anecdotique, est-ce que c'est quelques dizaines de bactéries qui ont échappé le système de défense de l'organisme humain qui se retrouve dans le cerveau, ou est-ce que c'est des millions de bactéries qui sont dans le cerveau en coopération avec les cellules humaines? Ça, c'est une question qui reste à éclairer, et pour cela, ce type de preuves qu'on accumule au fur et à mesure des années va permettre à la communauté scientifique de vraiment s'intéresser à ce sujet et de mettre les moyens qu'il faut pour l'étudier.
Bon, on fera peut-être bientôt une émission sur le microbiote cérébral, en l'occurrence Benjamin Lelouvier. Merci beaucoup pour vos explications. Vous étiez en duplex de France Bleu à Toulouse. Merci à vous et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le pancréas artificiel Diabète Loop est autorisé en France pour les diabétiques de type 1, proposé par la start-up française du même nom. Il vient d'obtenir donc son marquage CE. Le dispositif est constitué d'une pompe fixée sur le bras et d'un capteur sur l'abdomen. Les informations sur la glycémie sont transmises à un smartphone qui, grâce à des algorithmes, sert de pancréas pour ajuster en temps réel donc le niveau de sucre des patients. Pour son lancement, Diabète Loop sera accessible uniquement via une prescription médicale d'un diabétologue. La Lune aurait accueilli la vie par deux fois durant son histoire, peu après sa formation, il y a 4,4 milliards d'années, mais aussi il y a 3,5 milliards d'années. L'atmosphère de notre satellite aurait permis à l'eau liquide de subsister. Ces estimations publiées dans la revue Astrobiologie vont certainement relancer la recherche de traces anciennes de vie sur place, d'autant que durant le second épisode d'habitabilité lunaire, la vie grouillait déjà sur la Terre. Vous pouvez lire d'ailleurs un article complet sur cette question sur le site de la revue Ciel et Espace. Et puis pour terminer, une technique de camouflage sonore très efficace pour éviter les chauves-souris. Certains papillons de nuit ont développé une protection infaillible. Les poils de leur thorax sont capables en effet d'absorber une grande partie des ultrasons qu'ils reçoivent grâce à des structures nanométriques décrites pour la première fois et appelées des puissants sons. Les papillons sont invisibles ou plutôt inaudibles, entre autres pour les chauves-souris. Allez, la phobie scolaire, dossier dans un instant.
I don't know me. Well, I was told by my
have it. When we got it, we don't seem to want it. We all want a teenage fantasy. Want it when we can't have it. When we got it, we don't seem to want it.
Teenage Fantasy, c'était Georgia Smith.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, on parle de la phobie scolaire cet après-midi, donc dossier de l'émission pour évoquer cette angoisse qui constituerait environ 5% des motifs de consultation en pédopsychiatrie. Et on en parle avec vous, entre autres Lélia Benoît, vous êtes chercheuse à l'INSERM et pédopsychiatre à la maison de Solène. Et vous êtes, on le disait tout à l'heure, responsable d'une grande enquête INSERM qui vise à évaluer le parcours de soins et le parcours scolaire de familles justement concernées par la phobie scolaire. Grégory Michel, vous êtes installé à Bordeaux en duplex avec nous. Vous êtes professeur de psychopathologie à l'Université de Bordeaux et vous co-dirigez l'équipe INSERM Elsie Santé et Réussite des Jeunes, c'est son intitulé. Et puis Sébastien Bollaire, vous êtes avec nous bien sûr, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, et vous consacrez, Sébastien, précisément un article sur la phobie scolaire dans votre dernier numéro, et les auditeurs nous rejoignent avec les messages, les témoignages. On attend bien sûr vos mails sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Qu'est-ce qu'on appelle la phobie scolaire? On va commencer par ça justement, Lélia Benoît, pour bien comprendre de quoi on parle.
Alors, classiquement, la définition, c'est celle d'Ajuria Guerra qu'on retient, qui est celle d'un enfant qui refuse d'aller à l'école et qui manifeste des symptômes d'anxiété très importants quand on essaye de l'y forcer.
Ouais.
Donc, c'est vraiment l'intensité de la peur qui le différencie de l'appréhension normale à aller en classe pour la rentrée ou la veille d'un contrôle.
Ça, c'est la définition sur laquelle à peu près tout le monde est d'accord. Oui. Grégory Michel, vous avez envie d'ajouter autre chose ?
Oui, je suis complètement d'accord par rapport à cette définition. Il y a un élément quand même qu'ajoute Ajuria Guerra, c'est la notion de, pour des raisons presque irrationnelles. Et ça, les raisons irrationnelles, ça c'est un élément effectivement qu'on retrouve, c'est-à-dire des parents et des enseignants, mais c'est surtout des parents qui comprennent pas effectivement pourquoi ces manifestations anxieuses sont si vives, sont si violentes, alors que l'école ne représente pas, on va dire, un danger et une menace, on va dire, importante. Donc c'est ce décalage qui a forcément, on va dire, une interprétation de la situation qui est redoutée.
Sébastien Bollaire.
Oui, bah c'est le terme phobie qui introduit cette nuance-là, c'est que c'est à la fois irrationnel et impossible à maîtriser. Il y a quelque chose de déterminer un petit peu dans le disque dur du cerveau, hein, dans les phobies. On sait qu'il y a des zones cérébrales qui s'activent automatiquement en réponse à certains stimulus, que ça s'est ancré par une sorte de conditionnement et que pour cette raison, c'est très difficile à démonter. C'est pas comme justement une simple peur ou une envie d'évitement. C'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. Ça appartient aux structures profondes du cerveau.
Important évidemment de différencier la phobie scolaire avec d'autres problèmes comme la rébellion adolescente par exemple, Lélia Benoît.
Tout à fait. Classiquement, on essaye de distinguer la phobie scolaire de l'école buissonnière, alors du décrochage aussi. Le problème en pratique, c'est comment est-ce qu'on fait cette distinction? Est-ce qu'on passe pas quand même à côté de certains jeunes qui vont mal, qui ont très peur de l'école, mais qui, parce qu'ils avaient déjà des mauvais résultats avant, ou parce que leurs parents ne sont pas capables de s'occuper d'eux, de les emmener consulter, être aidés, on pourrait considérer qu'ils décrochent, alors que ces jeunes ont vraiment très peur d'aller en classe.
Ouais, Grégory Michel, là-dessus aussi, hein, il faut vraiment observer les choses finement pour pouvoir bien déceler le problème chez les adolescents.
Oui, parce que effectivement, alors je suis complètement d'accord sur le fait que parfois on a du mal à déceler, on va dire, les éléments, on va dire, anxieux qui conduisent certains jeunes à refuser d'aller à l'école. Mais il y en a aussi d'autres, justement, dans l'école buissonnière, qui refusent d'aller à l'école, non pas parce que effectivement l'école ou ce que ça représente. Hein, on va aller après peut-être un peu plus loin sur les raisons. C'est que ce sont des jeunes qui ont autre chose, on va dire, presque à faire. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui peuvent rentrer dans des conduites un petit peu de rupture, un peu sociale, dans des conduites antisociales, dans des conduite un petit peu de trouble des conduites. Et là, il n'y a pas cette notion de culpabilité. Ce sont des jeunes qui vont dissimuler justement leur absentéisme. Ils vont dissimuler tout ça auprès des parents. Mmh. Alors que dans la phobie scolaire, ce sont des jeunes qui vont demander la participation active aussi aux parents.
On va écouter justement le témoignage de Marie, qui a 16 ans, qui a longtemps été à la maison de Solène. On va écouter son témoignage parce qu'il est assez étonnant justement par rapport à cette problématique.
Accompagnée par sa mère, Marie, 16 ans, vient plusieurs fois par semaine à la maison de Solène, la maison des adolescents de l'hôpital Cochin. Elle est prise en charge ici pour une grave phobie scolaire qui l'a laissée anéantie.
Ma phobie scolaire a commencé il y a environ 2 ans. L'élément déclencheur a été le décès d'un ami qui a été très lourd pour toute l'école, tout l'établissement. Et en fait, J'ai un peu ressenti tout ce que ressentaient les autres.
Marie, alors en classe de 3e, s'oblige à aller en cours. Elle somatise de plus en plus, mais personne ne diagnostique son mal jusqu'au jour où tout s'arrête.
La plus grosse ampleur que ça ait pu prendre, c'est que j'ai été alitée pendant 2 mois parce que je ne pouvais plus marcher. Et en fait, j'étais en fauteuil roulant à ce moment-là. Et du coup, c'était quelque chose de très dur parce qu'en fauteuil roulant, c'est un handicap physique. Et pendant l'hospitalisation liée à ça, en fait, j'ai recommencé à marcher sans forcément de problème. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait absolument rien d'organique. On a fait plein d'examens. Et en fait, c'était psychologique. Et donc, eux, ils ont après, au fur et à mesure des entretiens que j'ai pu avoir, on a déterminé que c'était la phobie scolaire qui posait autant de problèmes.
Voilà, étonnant témoignage, justement. J'aimerais avoir votre sentiment et vos réactions. Léla Benoît, peut-être pour commencer, cette jeune fille qui avait tellement peur d'aller à l'école qu'elle est arrivée tout d'un coup dans un fauteuil roulant, ne pouvant plus marcher du tout. Ça fait partie des symptômes physiques qu'on peut rencontrer facilement, ça?
Alors, ne plus marcher du tout, c'est assez rare, mais on voit bien que c'est la difficulté, l'angoisse qui est venue à la bloquer de manière assez importante. En revanche, ce qu'elle dit et ce que disent beaucoup d'adolescents, c'est qu'avant de refuser, avant de plus en pouvoir, ils ont quand même persévérer. Il y a une grande notion de persévérance où ils essayent d'y aller malgré l'angoisse pendant des semaines, des mois. Et des fois, cette période passe totalement inaperçue aux yeux des parents, aux yeux des enseignants. Et le jour où ils n'en peuvent plus et qu'ils disent finalement j'y vais plus, ou alors qu'ils se retrouvent bloqués physiquement, qu'ils somatisent en fait cette difficulté, plus personne ne comprend. On dit mais alors tu devrais faire un effort, essaye un petit peu. Et on est passé à côté de cette phase où ils étaient déjà en difficulté mais qu'ils essayaient de persévérer.
Grégory Michel, une réaction à ce témoignage également?
Juste effectivement pour bien préciser que c'est quelque chose qui est de l'ordre, on va en dire, du continuum, quoi. C'est quelque chose qui va s'installer effectivement progressivement et bien entendu les parents vont souvent être extrêmement surpris par cette rupture comme ça qui peut être brutale, mais lorsqu'on est effectivement vigilant, on va repérer certains signes avant-coureurs. C'est généralement aussi des jeunes qui ont un profil déjà, on va dire, très anxieux, c'est-à-dire des jeunes qui vont anticiper négativement certains événements, qui vont se faire du souci un peu plus que d'autres. Et puis ça va s'accentuer. Et puis, il y a aussi la honte, la culpabilité. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ne vont pas en parler. Et jusqu'au jour où, effectivement, ils n'en peuvent plus.
Alors, il y a un aspect émotionnel très fort, parce qu'on entendait également, Sébastien, le décès de ce camarade de classe, qui a été vraiment à l'origine, en tout cas clairement identifié par cette jeune fille, comme étant le début de sa phobie scolaire.
C'est ça qui m'a frappé. C'est que là, on est devant un traumatisme, en fait. Et effectivement, il y a un certain nombre de cas de phobie scolaire qui se rattachent à un épisode traumatique. Ça, c'est vrai. Dans son cas, à la limite, si ça avait été attaché non pas à l'école, mais à un autre lieu, peut-être qu'elle aurait développé une phobie de cet autre lieu. Voilà, elle a vécu le décès d'un camarade avec des flux émotionnels apparemment qui lui venaient de toute la classe, quelque chose d'extrêmement perturbant. Et le traumatisme, à ce moment-là, se trouve associé au lieu. À ce moment-là, évidemment, le réflexe, on le sait très bien, par le mécanisme de conditionnement, on va fuir ce lieu qui fait ressurgir à chaque fois ces émotions trop difficiles. Et je crois qu'effectivement, il y a une partie des phobies scolaires, pas toutes, qu'on peut rattacher, qu'on peut faire remonter à un traumatisme, parfois à l'école. Oui. Hein, le cas que nous cite Grégory Michel dans son article, ce jeune garçon, Eric, on s'aperçoit qu'il y a eu quand même... Alors, c'est beaucoup plus complexe son histoire, mais
on va en parler.
Il y a eu un épisode traumatique, un épisode d'humiliation, par un professeur. On se rend compte que parfois il y a cet ingrédient qui entre en jeu.
Ouais. Léla Benoît, pour rester un instant sur le cas justement de Marie, avec ce poids justement qu'elle ressent, comme si tous ses camarades et la détresse, le chagrin de ses camarades l'avaient empêchée ensuite d'aller à l'école. Là, finalement, elle l'a clairement identifié. Mmh. Hein, c'est-à-dire que, est-ce que c'est plus simple justement quand on arrive à connaître la cause justement de ce trouble?
Ça aide à donner du sens de connaître la cause, mais il y a quand même un mécanisme dont on parlait qui se met en marche et qui est difficile à enrayer, qui est cette difficulté, ce qu'on appelle un peu un pont d'affect, c'est-à-dire que le lieu est associé à une émotion tellement intense qu'on en vient à l'éviter. Et ça, même si on connaît la cause, on est dans un mécanisme qui est difficile, qui prend du temps à désensibiliser. Et là où je suis tout à fait d'accord...
C'est une rééducation, réellement.
Tout à fait, c'est nécessaire. Une rééducation. Ouais. Parfois, il faut même changer d'établissement, reprendre à petite dose ailleurs, essayer de se déconditionner, comme si on était allergique, finalement, à ce lieu-là. Et c'est important de bien préciser que ça s'appelle l'école, parce qu'il se trouve que le lieu, c'est l'école, mais c'est pas la faute de l'école. Et quand on dit phobie scolaire, souvent aux professionnels de l'éducation nationale, ils disent mais encore l'école, pourtant on essaye de faire notre maximum. Et effectivement, on peut pas dire que ce soit la faute de l'école, en tout cas pas à chaque fois. Parfois, il y a des événements douloureux qui se sont passés à l'école, on peut avoir rencontré un enseignant difficile, mais c'est pas systématiquement le cas, donc c'est pas une accusation, la cause n'est pas l'école, l'école est le lieu.
Allez, on va se retrouver dans un instant avec les messages, bien sûr, et les témoignages des auditeurs. On discute de la phobie scolaire cet après-midi dans La Tête au Carré.
Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde, même pour tout l'or du monde, jamais je ne t'aimerai. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une saison, et je maudis l'été où tu m'as dit ton nom. D'ailleurs de ce nom-là, je m'en souviens pas, mon souvenir me tue, mon souvenir me tue. D'ailleurs de ce nom-là, oui j'ai tout oublié, et le son de ta voix, et l'odeur de l'été. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde. Même pour tout l'or du monde, jamais je ne t'aimerai. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une saison, et je maudis l'été où tu m'as dit ton nom. Et s'il arriva que je fus fou de toi, ton souvenir n'est plus qu'un souvenir de plus, que brûle sans retour les sueurs de nos amours, et le soleil noyé et qu'éclate l'été. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde.
Je ne t'ai jamais aimé, Camélia Jordana et Babix.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Voilà, l'élève Benoît avec nous pour parler de la phobie scolaire, Grégory Michel en duplex de Bordeaux et Sébastien Boller pour Cerveau et Pico qui consacre justement un long article à ce sujet. L'élève Benoît, il faut préciser que vous êtes également sociologue, hein. Vous avez les deux casquettes, chercheur et sociologue.
C'est ça, je fais de la santé publique en utilisant des méthodes de sociologie. Oui.
Plutôt original, hein?
Oui.
Et donc, vous travaillez en ce moment sur cette enquête autour de la phobie scolaire. Beaucoup de questions des auditeurs et des témoignages. Olivier, tiens, qui demande si vous avez des cas de phobie scolaire chez les enseignants. Est-ce que c'est ressorti dans votre étude?
Alors, dans l'étude qualitative que j'ai fait, effectivement, pour mon travail de thèse en santé publique et sociologie, j'avais interrogé des enseignants et dont une qui m'avait dit effectivement qu'elle avait vécu pendant un an une sorte de phobie scolaire par rapport à une classe qui était sympathique au début et puis ensuite très difficile, et que pendant toute l'année elle a dû se forcer à aller les voir avec la peur au ventre, en ayant des nausées le matin, en appréhendant ce cours-là en particulier avec cette classe. Bon, finalement il se trouve que ça s'est bien passé, que la classe s'est améliorée, que même certains élèves l'ont remercié après coup, mais c'est des phénomènes qu'on peut connaître à tout âge finalement, d'être traumatisé un peu sur le plan émotionnel et d'avoir des grandes difficultés à s'exposer à cet événement qui nous choque.
On pourrait parler de phobie du travail aussi, alors finalement.
Peut-être, oui. Et des périodes dans la vie, on est très sensibilisé. Par exemple, quand on fait une petite dépression, on peut être particulièrement sensible à l'environnement.
La phobie du travail, c'est quelque chose qui existe. Hein.
Bien sûr. On l'a évoqué avec vous aussi.
Tout à fait. Donc, pour un enseignant, c'est la phobie scolaire qui se recoupe. Oui.
À propos de la phobie scolaire, nous dit Marie-Chantal sur franceinter.fr, c'est peut-être pour vous d'ailleurs, Grégory Michel, il faut penser à la réaction d'élèves traumatisés par des interventions inappropriées de certains enseignants, des moqueries par exemple. Ça rejoint cette histoire d'Éric là que vous racontez. Hein.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans le cas présenté effectivement dans le numéro de cerveau psycho, l'élément, on va dire, déclencheur, c'est une humiliation. Donc c'est le fait effectivement devant tous les élèves d'être humilié par rapport effectivement aux difficultés que présente cet enfant, des difficultés des apprentissages. Donc il a des troubles 10, dyslexie, etc. Ça c'est vraiment l'élément déclencheur. Mais c'est vrai que préalablement, on va retrouver quand même un certain nombre d'éléments quand même qui sont présents justement chez cet enfant. Mais c'est vrai que c'est à partir de cet événement traumatique, là ça devient effectivement insupportable pour lui d'être confronté à la situation qu'il redoute le plus et qui va être incarné par cet enseignant.
Alors racontez-nous la suite de l'histoire quand même parce qu'elle est intéressante. Donc Éric est incapable de quitter son domicile pour aller à l'école. Alors il promet qu'il ira le lendemain mais il n'y parvient jamais en fait. Hein.
C'est ça, c'est-à-dire que justement comme on le décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il prend effectivement beaucoup sur lui, il y a un investissement aussi des parents qui est très important et qui est logique effectivement, le fait qu'il aille à l'école, parce qu'il y a cette obligation effectivement scolaire, mais ça devient effectivement insupportable. Il décrit assez finement justement tout ce qui se joue cliniquement dans cette phobie scolaire, c'est-à-dire que plus il se rapproche effectivement de l'école et plus son cœur bat très vite, plus il commence à avoir des pensées qui sont des pensées un petit peu irrationnelles, des pensées complètement erroné, et ça devient effectivement insupportable. Et là, il présente ce qu'on appelle des attaques de panique, c'est-à-dire des moments, des attaques d'anxiété, on va dire, extrêmement vives, paroxystiques, extrêmes, auxquelles, finalement, la seule façon, effectivement, de trouver une solution, ça va être l'évitement. Donc, l'évitement phobique, c'est-à-dire revenir, effectivement, à la maison. Il décrit aussi une anticipation négative, c'est-à-dire que c'est, même sans y être confronté, le fait de penser que le lendemain il doit aller à l'école, ça commence à être effectivement insupportable pour lui. Donc avec des troubles du sommeil, avec tout un tas de symptômes anxieux comme ça qui sont extrêmement envahissants.
Alors Sébastien Boller, il y a aussi la théorie de l'attachement qui intervient dans le cas d'Éric, puisqu'on voit justement à travers son cas que les liens entre lui et ses parents confirment une sorte d'insécurité, c'est ça ?
Oui, alors ça c'est tout le côté fascinant du récit que nous fait Grégory Michel dans cette étude de cas. On voit que la subtilité des existences qui se déploient comme ça au fil des entretiens entre le psychothérapeute et le patient, en creusant dans les relations familiales, le psychothérapeute voit apparaître des choses qui donnent toute l'unicité de ce cas-là, c'est que les relations entre le fils, la maman, le papa sont spéciales. La maman elle-même a eu une phobie scolaire. Et dans les deux cas, c'était des problèmes aussi de confiance dans la relation avec le parent. Éric, on se rend compte qu'il a une relation assez fusionnelle avec sa mère, qu'elle lui a dit parfois, si jamais tu ne te sens pas bien à l'école, n'hésite pas à revenir. Donc, il y a beaucoup d'enfants dans les phobies scolaires, apparemment, si j'ai bien compris, qui ont peur aussi d'une séparation, qu'il arrive quelque chose à leurs parents pendant qu'ils sont à l'école, qui ont un lien comme ça qui n'est pas entièrement sécurisé et où l'école vient intervenir quelque part comme une menace. Voilà. Et là, c'est très très difficile à démonter. Il faut en passer effectivement par une mise à plat des relations et peut-être par une réorganisation de la vie aussi dans la famille, y compris peut-être une rescolarisation ailleurs pour l'enfant pour lui permettre de gagner un peu d'indépendance, d'autonomie.
Lélia Benoît, ça sort beaucoup aussi ça dans votre enquête, le lien avec les parents et la fragilité, le terrain plus fragile en tout cas par rapport à la peur scolaire.
Oui, alors on a posé la question aux parents de savoir si eux-mêmes étaient très inquiets pour leur enfant ou s'ils avaient l'impression d'avoir mis la pression à leur enfant d'une manière ou d'une autre. La théorie de l'attachement et de cette insécurité, donc c'est quelque chose d'ancien. Hein. Depuis les années 40, les psychiatres avaient presque commencé en disant probablement que la phobie scolaire, c'est une difficulté d'attachement avec une anxiété trop importante. Ça a été quand même pas mal critiqué par les parents aussi, hein, puisque à un moment donné, c'était la cause unique, c'est-à-dire uniquement les parents. Et on oubliait tout un ensemble de choses, notamment les humiliations au sein de l'école ou des difficultés de l'enfant plus individuelles. Et là, on a tout un éventail de petites particularités, les troubles des apprentissages, donc la dyslexie, la dysorthographie. Mais alors aussi, on a beaucoup d'enfants qui sont considérés comme précoces ou surdoués. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, qui sont peut-être un peu en avance par rapport au programme et qui s'ennuient. D'autres où on peut considérer qu'ils ont des difficultés de relation avec les autres. Et finalement, Et en dernier, quand même, dans le troisième éventail, en plus de l'attachement et puis des particularités individuelles, l'environnement scolaire aussi, où on n'oublie pas le harcèlement, les difficultés au sein de l'établissement.
Donc tout ça est très multifactoriel, comme on le dit à chaque fois. Hein. C'est-à-dire exactement. Que pour identifier les causes, il faut aller parfois chercher très loin hein, pour comprendre exactement ce qui est à la racine du
tout
problème.
Tout à fait. Hein. Il faut vraiment faire l'inventaire et ne pas considérer une cause comme centrale ou unique.
On va écouter Anne-Marie Rocco, c'est la maman justement d'une enfant qui a été victime justement de phobie scolaire. Elle a publié en 2013 ce livre « Le jour où je n'ai pas pu aller au collège » qui était publié chez Flammarion. On écoute le témoignage de cette mère.
J'étais, j'avoue, assez effondrée parce que pour moi un enfant ça va à l'école, oui forcément. Nous avons énormément parlé, je pense que c'était aussi un petit peu ce qui lui manquait. Auparavant elle n'avait jamais réussi à exprimer le malaise qu'elle ressentait lorsqu'elle allait à l'école. Après quelques tentatives de l'inscrire dans un autre type d'école, on s'est rabattu sur l'enseignement à distance, donc elle était à la maison. Mais la forcer, ça m'est pas venu à l'idée, en fait. Je pensais que c'était plus important de chercher les causes et de l'aider à avoir de nouveau envie, ce qui a été le cas 2 ans plus tard. Et c'est là où le système français est assez pervers, c'est-à-dire que au lieu d'encourager tout le monde a avancé, peut-être chacun à son rythme et pas tous en même temps, puisque tout le monde ne peut pas y arriver de la même manière et au même rythme. Eh bien, c'est l'école qui décourage et c'est ça qui, moi, me chiffonne le plus, c'est que on laisse des enfants sur le bord de la route au fur et à mesure que les années avancent.
Alors, Lélia Benoît, là encore une réaction, hein, parce qu'on tape encore sur l'école une fois de plus, là, finalement, dans ce témoignage, avec l'école qui décourage. C'est compliqué aussi pour les enseignants. Hein.
Oui, c'est compliqué pour les enseignants, c'est compliqué pour les parents. C'est une expérience qui est assez fréquente d'avoir des enseignants qui nous disent « Nous, on est de bonne volonté, mais les parents arrivent en nous accusant presque. Voilà, il a une phobie scolaire, c'est de votre faute. » Et des parents qui disent « On essaye de réinscrire notre enfant et l'école n'est pas attentive. » Donc là, on a vraiment un lien de confiance à recréer, si ce n'est à créer, entre l'école et les parents pour que l'élève puisse reprendre peu à peu. Et encore une fois, une culture qui n'est pas la nôtre en France, mais valoriser les petits efforts. Ça veut dire qu'on n'y arrive pas du premier coup, on ne va pas être uniquement sur l'échec, puisque tu n'y arrives pas, va te faire soigner et reviens une bonne fois pour toutes quand tu iras bien. Ça ne marche pas dans la phobie scolaire, ça ne marche pas dans les phobies. Toutes les réadaptations se font petit à petit. On a besoin d'être encouragé.
Sébastien ?
C'est d'abord la question du stress, hein, qui est quand même un facteur prépondérant qui alimente l'anxiété.
Ouais. Hein.
Là, on peut effectivement criminer le système scolaire français, mais aussi les parents. Parce que je me souviens très bien de la question qu'on a traitée avec Gisèle Georges, qui est une psychologue qui a beaucoup étudié le stress, et notamment les niveaux de stress qui ont tendance à augmenter dans le milieu scolaire en France depuis plusieurs années. Son analyse était assez juste, je trouvais, parce qu'elle disait qu'effectivement, il y a de la compétition à l'école et une attitude du corps enseignant qui parfois va plus incriminer le défaut de l'élève plutôt que lui laisser de lui redonner confiance. Mais il y a aussi la pression qui vient du milieu familial. C'est-à-dire que les parents aussi ne sont pas les derniers à mettre la pression sur les épaules de l'enfant et que dans tous les cas, on sait que la bonne attitude, quand par exemple l'enfant revient avec une mauvaise note, si vous lui dites « ça va pas du tout, il faut que tu t'améliores », il peut aller vers une anxiété de performance, c'est-à-dire le désir de faire toujours mieux, qui peut être un des facteurs déclenchant d'une phobie scolaire. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est lui donner confiance. C'est le rassurer en permanence, lui dire qu'on sera toujours là, qu'il est capable de faire mieux. Et à ce moment-là, on peut éviter qu'un cercle vicieux s'instaure, mais autant le système scolaire que la famille doit jouer ce rôle de mettre en confiance.
Grégory Michel, justement, la compétition aujourd'hui dans nos sociétés, c'est un facteur aggravant, vous le dites, hein, dans Cerveau et Psycho.
Mais je pense que oui, puisqu'on est dans une société quand même beaucoup du faire et de l'avoir. C'est-à-dire que, notamment pour les jeunes, c'est assez prépondérant au travers de certaines actions qui peuvent effectivement produire. C'est-à-dire que pour se sentir exister, il faut faire les choses. Pour se sentir exister, par exemple vis-à-vis effectivement de certains parents pour lesquels les résultats et l'excellence scolaire est au cœur, on va dire, de leur éducation, on va dire que leur moyen, on va dire, de se sentir exister et surtout d'être aimé, d'être reconnu par les parents, c'est effectivement d'avoir de bonnes notes. Ça veut dire que eux-mêmes, au travers de ce qu'ils sont tout simplement, leur personnalité, leurs caractéristiques individuelles, ça ne les suffit pas finalement à les rendre attrayants, à les rendre aimables vis-à-vis effectivement des parents. Donc effectivement, il y a un aspect, on va dire, sociétal qui va irrémédiablement, en tout cas, impacter les pratiques éducatives.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite et fin de notre discussion autour de la phobie scolaire.
Les âmes se dissipent en abysse, lavées comme après la mousson. Plus de sommeil, plus de sommeil. En cette ville, il y a des travaux partout. Cerné de pommes analogues, je rampe la tête à l'envers. Puis il y a tout ça, les visages. Techno-futur, rétro-futur. Donne tes données, je te donne mes données. Donne tes données, je te donne mes données. Monte ton visage, je te montre mon visage. Je pars au cortège et les cris. Bris de vitrine et les masques. Je prends les pavés, je lance les pavés. Je prends les pavés, je lance les pavés. C'est intimidant, le Léviathan.
Il s'appelle Cyril. Cyril, sous la mer, c'est calme.
La tête au carré. Sur France Inter.
Voilà, dernière partie de cette discussion sur la phobie scolaire avec mes invités Lélia Benoît, Grégory Michel et Sébastien Boller et vos messages nombreux sur franceinter.fr. Hubert demande ceci à un psychopédagogue qui parle de la peur d'apprendre comme une des causes de la phobie scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Lélia Benoît?
Oui, ça a été beaucoup décrit, la peur du penser, même donc l'idée à l'adolescence que l'immensité du savoir, l'accès à l'abstraction aussi à partir de 11 ou 13 ans, on commence à comprendre que la vie c'est complexe, qu'y a-t-il après la mort, avec des capacités cognitives qui augmentent, finalement ça peut faire peur. C'est aussi le moment de la puberté, de la sexualisation, et ça a été décrit comme certaines causes de phobie scolaire.
Grégory Michel, une réponse là-dessus ?
On est effectivement dans des conduites finalement d'inhibition, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui vont inhiber un petit peu leur capacité d'apprentissage. Et ça, c'est effectivement une conséquence extrêmement grave du coup de la phobie scolaire, c'est-à-dire que ça va agir directement sur les capacités d'apprentissage de ces jeunes qui sont justement au collège, qui sont effectivement au lycée.
Alors justement, il y a Chantal qui nous dit, est-ce qu'un enfant en phobie scolaire peut se replier sur les jeux en ligne? Souvent, dit-elle, je me demande si mon fils n'a pas un grand poil dans la main. C'est compliqué de faire la différence entre l'adolescent et la phobie.
Ouais. Alors les jeux en ligne, ça c'est compliqué. C'est vrai que l'OMS vient de classifier les jeux vidéo en ligne sur la liste des pathologies psychiatriques. Voilà, donc on attend les résultats du grand congrès qui doit savoir si ça peut être transmis après dans la pratique psychiatrique en France. Alors la dépendance aux jeux en ligne, ça touche tellement de monde que je ne sais pas si ça peut être attaché à la phobie scolaire. En tout cas, tout ce qui permet le repli ne va qu'aggraver l'attitude de refus et d'évitement de l'école, ça c'est sûr.
François dit justement, les Japonais ont les hikikomori, Leila Benoît. Alors ça c'est encore pire, hein. C'est un degré encore plus important d'enfermement.
C'est ça, c'est des jeunes Japonais qui restent dans leur chambre, effectivement, à jouer sur Internet et qui refusent de sortir et d'assumer un rôle adulte qui est attendu d'eux.
Grégory Michel, Edith nous dit, la phobie scolaire, est-ce qu'elle peut se transformer en phobie sociale si elle n'est pas traitée?
Oui, comme la phobie sociale peut aussi expliquer la phobie scolaire. C'est-à-dire que moi, ce qui me paraît effectivement indispensable, c'est de pouvoir faire un examen psychologique suffisamment fin mm-hmm. pour pouvoir justement repérer quels sont les mécanismes prévalents de ce qu'on va appeler la phobie scolaire ou de ce refus scolaire anxieux. Est-ce qu'on est face effectivement à un jeune qui est justement dans une inhibition vis-à-vis du savoir ? Est-ce qu'on est face à un jeune qui peut présenter effectivement une anxiété de performance ? Est-ce qu'on est face à un jeune aussi qui du coup a du mal à entrer en contact avec les autres, qui est timide, qui est déjà isolé, et donc forcément à l'école il va être amené à rencontrer des élèves, mmh. à être en relation avec l'adulte, et donc où cette phobie sociale va être cristallisée directement dans cette phobie scolaire. Alors on sait que la phobie scolaire, bien sûr, conduit à un isolement. Et donc l'isolement va aussi conduire à une sous-estimation, à une disqualification de soi, et souvent, d'ailleurs ça s'accompagne avec une dépression, et la phobie sociale peut être une des conséquences effectivement graves de cette phobie scolaire.
Léa Benoît, si vous voulez rebondir.
Oui, tout à fait, la phobie sociale fait partie des causes de phobie scolaire ou des conséquences. On sait que les jeunes qui ont eu une phobie scolaire peuvent par la suite, un certain pourcentage d'entre eux, mais dans les cohortes de longue durée, avoir des difficultés durables à s'engager dans le travail, à se sentir à l'aise dans leur environnement professionnel et intégré.
Sébastien ?
Oui, parce que pour ceux qui ne sont pas familiers de ces questions-là, la phobie sociale, il faut peut-être rappeler que c'est la peur d'interagir avec les autres, la peur de socialiser, qui peut atteindre des niveaux vraiment préoccupants. Et pour l'enfant, le premier lieu de socialisation, c'est l'école. Donc évidemment, s'il a la peur du regard des autres, à l'école, ça va prendre des proportions très spéciales, parce que le regard des autres est conditionné par tout de même la performance. Donc ça se double d'une peur de la performance, une anxiété de performance, qui est un des facteurs de phobie sociale les plus aggravants. Oui.
Grégory Michel, comment va Eric d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est le cas que vous avez choisi pour Cerveau et Psycho. L'histoire finit bien quand même.
Elle finit bien. Alors c'est vrai que là on n'a pas parlé tout à fait encore des traitements, mais ça a été un traitement qui a été un peu compliqué parce que on va dire la compliance, on va dire des parents et notamment de la maman, puisque justement Sébastien Boller a indiqué que finalement le mécanisme prévalent de cette phobie scolaire c'était plutôt une anxiété de séparation. Mmh. Et l'anxiété de séparation donc elle est à la fois chez l'enfant mais aussi chez la mère, c'est-à-dire que souvent l'enfant présente une anxiété de séparation qui est en miroir de celle effectivement présente chez l'un des deux parents, et là en tout cas dans ce cas-là c'était la maman. Donc la prise en charge a été compliquée, le retour progressif à l'école a été souvent compliqué par justement des interventions on va dire maladroites ou au contraire ajustées selon où on se place de la maman. Et ce qui a été proposé finalement c'est une rupture totale, c'est-à-dire le fait que ce jeune soit scolarisé dans un internat, ce qui a été refusé en bloc d'emblée. Et qui, progressivement, l'idée a fait un peu son chemin et Eric a finalement accepté et a même demandé à un moment donné, lors d'une consultation, à être scolarisé en internat, c'est-à-dire dans un lieu où il sera complètement séparé de son milieu familial. Donc, et donc là, actuellement, il va bien, il est scolarisé normalement et il n'y a plus ces signes, on va dire, d'anxiété que l'on retrouvait il y a quelques années maintenant.
Ouais, donc il y a eu tout un travail sur l'anxiété de séparation et sur l'autonomie, c'est ce que vous précisez justement dans cet article. Il a 13 ans aujourd'hui, Eric. Il y a toujours de l'anxiété quand même, c'est ce que vous dites dans ce témoignage.
Alors oui, de l'anxiété, bien sûr. C'est un jeune qui est anxieux, qui a toujours été anxieux. On peut parler de personnalité ou de tempérament anxieux, mais on ne retrouve plus du tout ses conduites d'évitement. C'est-à-dire qu'il a mis en place des stratégies pour réguler. Stéphane Bauer, tout à l'heure, parlait de stress. Va mettre en place des stratégies pour réguler, justement.
C'est Sébastien Boller, mais on ne vous en veut pas, Grégory Michel.
Mais c'est absolument différent, complètement différent de ce qui pouvait être observé il y a quelques années, c'est-à-dire 2 ans auparavant. Avant. Ouais. Donc là, il est adapté. Ça reste effectivement donc un jeune anxieux, mais il est plus dans une conduite de refus. Il est dans une conduite plutôt proactive vis-à-vis effectivement de l'école.
Lévia Benoît.
Oui, l'anxiété peut être aussi un symptôme masque. Donc il est important de voir. Qu'est-ce qui génère l'anxiété ? Notamment, on a la question de l'attachement, mais il est arrivé qu'on retrouve chez des jeunes des petits symptômes d'autisme, notamment. Certains, alors pas tous, c'est très rare, peuvent avoir des petits traits autistiques. Et finalement, cet autisme, ça conduit à des difficultés dans les interactions sociales avec les autres, qui sont très légères, donc personne ne s'inquiète pendant des années. Finalement, on se déprime un petit peu au collège parce que on a moins de camarades que les autres. Parfois, on peut se retrouver en situation de harcèlement. Les parents ont l'air anxieux aussi, puisque puisqu'ils se sont beaucoup adaptés à ces petites difficultés à la maison. Et on se retrouve avec un tableau qui, de l'extérieur, a l'air d'être uniquement une phobie scolaire avec des parents stressés, anxieux, anxiogènes. Et qui finalement, quand on creuse un petit peu, quand on fait les bilans, on se rend compte qu'il y a des petites difficultés d'interaction qui étaient là depuis longtemps. Et parfois, ça vaut le coup de les nommer parce que ça aide le jeune à comprendre, les parents aussi, et on part sur une base plus sereine.
Alors, comment prendre en charge justement les enfants pour un retour ensuite à l'école et les réhabituer justement à la vie scolaire? Extrait d'un reportage qui avait été diffusé en 2013 dans l'émission Service public à l'époque, reportage de Thomas Chauvineau dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré.
Voilà, nous voilà donc dans l'école du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré. Et là, comme il s'agit de locaux, vous voyez, assez attrayants et pas, enfin, c'est moins effrayant qu'une grande école avec des grands murs, c'est par petits groupes. Donc, c'est pour réhabituer l'enfant à travailler sur des matières scolaires, mais sans avoir la peur du jugement des autres, en petits groupes et non pas devant une grande classe de 30 élèves. Et donc, ça permet à l'enfant d'avoir moins peur.
Il y a un enseignant, justement, on peut peut-être lui poser des questions. Bonjour.
Donc, mon travail, c'est déjà de les rassurer sur leurs compétences et puis de reprendre des habitudes de travail, de participer au programme de retour dans les établissements. Donc, on commence par, ça peut simplement être aller toucher la porte du lycée, puis parfois, c'est même voir le lycée, l'idée d'aller au lycée ou au collège,
traverser la rue pour aller jusqu'au lycée, ça peut être la première étape du traitement.
Là, on voit ces enfants qui ont vraiment des situations d'angoisse, des sudations, des tremblements, des peurs paniques. Et l'objectif étant qu'ils aillent au moins, enfin, lorsqu'ils sont à proximité, une semaine en classe.
Voilà, c'était donc en 2013 dans le service de pédopsychiatrie. On voit que le processus de réinsertion est long hein, quand même, Leïla Benoît. Qu'est-ce qui a fait ses preuves aujourd'hui justement sur la prise en charge des jeunes?
Alors effectivement, des psychothérapies, celles qui ont été testées, en général c'est plutôt les thérapies cognitives et comportementales. En revanche, il y a tout un ensemble de thérapies analytiques, de groupes aussi, c'est intéressant pour se réhabituer en petit nombre à être ensemble.
Et le rôle des parents?
Et le rôle des parents, donc du soutien parental, de la guidance parentale pour les aider. Il peut y avoir parfois un traitement médicamenteux, mais alors c'est uniquement s'il y a une dépression associée, pas a priori pour la phobie scolaire. Et ce qui aide aussi, c'est les aménagements au sein de l'école, donc l'allègement de l'emploi du temps, ce qu'on appelle le PAI. Donc,
ça peut être fait, ça.
Oui, c'est ça, un projet d'accueil individualisé où on peut se mettre d'accord avec l'équipe pédagogique pour que certaines matières soient retirées et que l'élève reprenne petit à petit le chemin de l'école.
Grégory Michel, pour terminer, justement, sur ce qui a fait ses preuves en matière de prise en charge.
Alors, ce qui a fait ses preuves, moi, je suis très content d'entendre ce reportage parce que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à Robert Debré et notamment sur ces problématiques-là, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place, on va dire, un programme pédagogique qui va être adapté à l'enfant. Là, c'est vrai qu'à Robert Debré, il y a des conditions qui sont assez exceptionnelles, c'est de pouvoir disposer d'un espace où le jeune va pouvoir être confronté, reconfronté à l'école, mais indirectement, c'est-à-dire par rapport à un contenu pédagogique qui va être ajusté à ses difficultés en termes de contenu et en termes de groupe. Donc on part, on va dire, sur trois axes hein, qui va être à la fois un retour à l'école, alors pas effectivement sous n'importe quelle condition. Deux, c'est de réduire effectivement le handicap, c'est-à-dire ces réactions d'anxiété extrêmement vives. Et puis trois, c'est faire un peu de la prévention, c'est-à-dire on est là un peu dans une logique de prévenir les complications éventuelles. Donc on est dans une prise en charge finalement un peu triangulaire, c'est-à-dire où on va travailler bien sûr avec l'école, au travers de la mise en place de ce programme pédagogique qui va être effectivement ajusté, et dans le cadre notamment d'un PAI, ça c'est très important effectivement de le dire, mais aussi et surtout avec les parents.
Merci beaucoup, merci Grégory Michel en duplex de Bordeaux. Leïla Benoît, merci également. Votre enquête donc sur la phobie scolaire, on peut prendre des renseignements sur le site parcoursphobiescolaire.fr, enquête donc de l'INSERM. On retrouve évidemment un dossier dans Cerveau et Psycho, Sébastien, ce mois-ci. Et puis on se quitte en évoquant également un thème que vous proposez avec toute l'équipe de Cerveau et Psycho en lien avec la conférence de la semaine dernière sur les secrets de notre mémoire. Donc ça, c'est sur Internet.
Tout à fait. On a décidé de faire ça effectivement en partenariat parce que c'était la mémoire qui était à l'honneur. Et donc c'est un tour d'horizon des dernières découvertes sur la mémoire. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à visualiser nos souvenirs au carrefour de nos neurones et toutes les déformations de la mémoire, les faux souvenirs, pourquoi est-ce qu'on oublie nos premiers souvenirs d'avant l'âge de 3 ans, tout ce que les neurosciences ont apporté à cette intériorité, ce trésor qu'est la mémoire que chacun possède.
Pour prolonger notre conférence sur le sujet, il suffit d'aller sur le site Cerveau et Psycho pour se procurer ce thème qui s'appelle également les secrets de notre mémoire. Merci beaucoup à tous.